d'emploi. Mode d'emploi.
Bienvenue sur Mode d'emploi, le format secret de fabrication, comme tous les troisièmes vendredis de chaque mois, où nous explorons la vie dans les entreprises, les services publics et les halls de Pôle emploi. Et ce soir, nous avons avec nous Sylvain du syndicat Sud Protection Sociale 93. Bonjour Sylvain.
Oui, donc bonjour. Alors, moi, j'ai plusieurs sujets à évoquer. Donc, je voudrais déjà intervenir sur la fermeture des points d'accueil concernant l'assurance maladie sur le 93. Hein. On a une direction nouvellement arrivée l'année dernière qui est en croisade concernant la liquidation des points d'accueil, etc. Et je vais développer. Alors, d'ores et déjà, notre centre de soins dentaires vient d'être fermé le 31-12-2020. Alors, c'était le seul centre de points dentaires de la CEPAM 93 qui restait. Avant, on en avait un sur Aulnay-sous-Bois et un à Aubervilliers. Ils les ont fermés il y a 3 ans, ils ont ouvert ce centre à la Courneuve et ils l'ont fermé d'ores et déjà le 31-12-2020. Alors il faut savoir que un collectif, et j'y reviendrai plus tard, hein, un collectif s'est créé avec toutes les tendances, hein, des militants syndicalistes,
des gilets jaunes… Je t'interromps, Sylvain. En fait… Je crois que le public aimerait savoir c'est comment ça fonctionnait ces centres dentaires jusqu'ici dépendants de la caisse primaire d'assurance maladie. On est en train de parler de centres, en fait, de dispensaires affiliés à la Sécu, oui. C'est ça, hein ?
Oui. Donc c'est financé par la Sécurité sociale, l'assurance maladie. C'était financé sur les budgets de l'assurance maladie. C'est ce centre de santé dentaire, d'accord ? Comme je viens de l'évoquer, on en avait deux, un à Aulnay, un à Aubervilliers, qu'ils ont fermé il y a 3 ans. Donc ça, c'est des décisions de la Caisse nationale d'assurance maladie, hein, et des directions locales, pour ouvrir un centre de soins dentaires à la Courneuve, qui est neuf, employant neuf il y a 3 ans, et ils viennent de le fermer le 31-12-2020, c'est-à-dire fin décembre 2020, hein, sous prétexte que ça coûte de l'argent. Enfin, la santé, ça a forcément un coût, et de toute façon, la sécurité sociale n'est pas là pour faire du bénéfice, on n'est pas le CAC 40, mais là pour assurer la santé des assurés du 93. Et je ne reviens pas sur la précarité qu'on peut connaître sur notre département et la pauvreté également qui, malheureusement, y règne. Hein.
Alors, je résume. On a eu un jeu de bonne taux, en fait, où ils ont fermé 3 centres pour en ouvrir un, et maintenant, celui-là, ils l'ont fermé. Et où va aller, qui va fournir l'offre de soins dans le département, alors ?
Ah ben nous, on n'a plus rien, c'est-à-dire que tous les assurés qui étaient suivis, les enfants pour l'orthopédie, etc., on les a laissés, la sécurité sociale, l'assurance maladie, les a laissés complètement en plan. D'accord ? Hein ? Donc il y a eu un combat du collectif que je viens d'évoquer, hein, avec le maire de la Courneuve, avec des politiques, des syndicalistes, des gilets jaunes, des associations, mais ça n'a pas suffi pour éradiquer le problème. Hein. C'est-à-dire donc ce centre.
Alors je disais, tu penses que Sylvain, tu penses que là on est donc face à un programme qui n'est appliqué qu'en Seine-Saint-Denis, qui est pire qu'ailleurs en Seine-Saint-Denis, ou qui est un programme de démantèlement de la CPAM à l'échelle nationale ?
Alors ça, c'est à l'échelle nationale, bien entendu. Hein. Mais à ma connaissance, des centres de soins dentaires appartenant à l'assurance maladie, c'est plutôt dans les grandes villes que dans les petites villes de province, évidemment. Hein. Mais c'est évidemment, et je vais venir sur la fermeture des points d'accueil tout de suite après, c'est un problème national d'économie, de gestion par les politiques et par la Caisse nationale d'assurance maladie, mais également les directions, parce que à chaque fois qu'il arrive une nouvelle direction, en général, vous avez des fermetures de points d'accueil ou de PMI, parce qu'on avait aussi des PMI, mais je ne vais pas expliquer tout l'historique. Et là, nous avons le démantèlement des points d'accueil et de cette fameuse clinique dentaire concernant la 2021, hein, parce que tout ça doit être liquidé en 2021. Non, mais pour répondre concrètement, oui, c'est un problème national.
Plus du tout, Jérôme. Donc, ouais. Alors, pour poursuivre l'émission, hein, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement le département de la Seine-Saint-Denis est déjà un des départements qui est sous-doté par rapport au reste de la France ? C'est ton sentiment
Oui, bien entendu, bien entendu. On est 1 600 000 assurés. Je reviendrai sur la fermeture des points d'accueil. Évidemment, la Seine-Saint-Denis est sous-dotée, paradoxalement, avec les grandes déclarations qu'on peut entendre de Castex, Édouard Philippe, Macron, etc., comme quoi il faut renforcer les services publics dans 93, etc. Donc on est complètement aux antipodes des discours politiques que l'on peut entendre à longueur de journée sur les antennes, sur les médias.
Alors, juste pour expliquer un peu aux auditeurs, la CPAM, hein, le centre dentaire qui est géré par la CPAM, est-ce que finalement c'est des coûts qui sont nettement plus bas ou plus économiques que dans d'autres structures, parce qu'on sait bien, hein, que les frais dentaires, c'est ce qui coûte en général le plus cher, notamment les remplacements. Est-ce que de ce point de vue-là, c'était un système qui était quand même efficace par rapport à ce qu'on peut trouver dans les grandes villes ou dans des cabinets?
Bien entendu. C'était vraiment avantageux pour les assurés sociaux. Hein. C'était même élémentaire, ce centre de soins dentaires.
Oui, est-ce que ça veut sous-entendre que l'offre de soins va aller se reporter sur les hôpitaux classiques?
Bah, ça va être reporté sur le privé, sur les centres de soins dentaires du privé.
D'accord.
Forcément.
Okay.
Ce qui n'avantagera pas les habitants du 93, notamment les plus précaires. Hein. Il va sans dire.
Comment se justifie la direction, parce qu'on est en pleine crise du Covid, on a quand même eu le plan, hein, pour l'hôpital qui a été annoncé l'année précédente, et puis toute cette polémique autour
de la fermeture des lits. Comme je viens de l'évoquer, c'est un problème de réduction des coûts de gestion. Voilà. La direction prétexte que c'est un problème de coûts, de déficit, etc., etc. Mais la sécurité sociale a été mise en place, pas pour reprendre l'expression de certains, la santé a un coût, effectivement, mais il est évident que c'est par économie de coût de gestion, hein, à prétexte de ça, la direction.
D'accord.
Donc voilà.
Alors, excuse-moi, vous m'entendez là, oui ? Oui.
Oui.
Je trouve qu'il y a une contradiction parce que on avait supprimé sur les hôpitaux principaux des lits pour que les usagers aillent sur la médecine de ville, ce qu'on appelle la médecine de ville. Hein. Et là, à l'inverse, on arrête la médecine de ville pour que les gens retournent vers le privé. C'est ça ?
C'est ça.
L'hôpital privé.
C'est ça.
Oui, d'accord. Donc là, il y a une contradiction, effectivement. Hein. On est d'accord.
Tout à fait. Tout à fait. Alors, si vous le voulez bien, je vais continuer sur la fermeture des points d'accueil, hein, parce que c'est en en concomitance avec la fermeture de la clinique de soins dentaires. Donc je vous déclare déjà, c'est officiel, la fermeture des points d'accueil assurance maladie 93. Donc c'est la suppression pure et simple, vous verrez pourquoi j'insiste sur suppression, de Bondy, de Pantin, des Lilas sont purement et simplement supprimés en 2021. Concernant les autres points d'accueil, d'après mes informations et ce qu'a déclaré la direction, Aulnay-sous-Bois, Montreuil, Aubervilliers, Drancy, Saint-Denis avec son immeuble, j'y reviendrai, sont vendus et seraient décentralisés dans des maisons de services publics dont on ne connaît pas le lieu et si ça va être réellement fait. Donc vous voyez que l'offensive est quand même considérable, hein, concernant le démantèlement d'assurance, de l'assurance maladie et de notre protection sociale dans 93. Pour exemple, il y a plus de 20 ans, nous avions 100 points d'accueil dans le 93. En 2015, nous nous retrouvons qu'avec 33 points d'accueil. Et en 2021, 14 sur 18 points d'accueil qui ne sont ouverts en moyenne, et c'est le cas à l'heure actuelle, que 2 jours par semaine et sur rendez-vous. Donc, je répondrai aux questions, il n'y a pas de souci. Le collectif, alors j'informe aussi les auditeurs, que le collectif qu'on avait mis en place pour sauver la clinique dentaire de soins dentaires de la Courneuve n'a pas suffi. Des syndicalistes, et là je lance un appel, excusez-moi, nous construisons un collectif avec des syndicalistes, des politiques, les gilets jaunes, les associations, etc., etc. Donc nous sommes en train de travailler dessus à l'heure où je vous parle, enfin, on a déjà commencé il y a quelques jours, pour réellement organiser un rapport de force dans le 93 pour faire cesser le démantèlement. Mais bon, je vais pas évoquer les quatre aujourd'hui, c'est le même problème. Hein. C'est le même problème partout, aux impôts, etc. Donc c'est pas égoïste, mais je parle aujourd'hui de l'assurance maladie, puisque là j'ai vraiment tous les éléments que je viens de vous donner sont concrets. C'est-à-dire c'est demain que ça commence, d'accord. Donc voilà, je suis prêt à vous répondre concernant ce point. Si j'ai pas été assez clair, mais je pense que c'est clair à tous ceux, pour tous ceux qui nous écoutent, que le démantèlement a commencé depuis quelques années, et là, je pense qu'on va à quasiment zéro point d'accueil dans les années à venir ou dans les mois à venir, puisque vous savez très bien que maintenant on dit bah faut passer par le numérique, hein. C'est-à-dire que évidemment dans le 93 tout le monde a un ordinateur, c'est de l'ironie, hein, évidemment, tout le monde a un ordinateur, tout le monde sait faire fonctionner. Pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur, bah quand il y aura une feuille d'assurance maladie envoyée, ça sera peut-être un timbre, mais quand il y en aura 10, ça sera encore un coût supplémentaire pour les assurés sociaux d'envoyer ça par papier. À ma connaissance, ils ont condamné toutes les boîtes aux lettres. Les assurés ne peuvent même pas mettre leurs feuilles de soins ou autres, hein, dans les boîtes aux lettres, des points d'assurance maladie tirés. Enfin, vous voyez un petit peu ce que ça va donner sur notre département. Voilà, je suis prêt à répondre.
Tu peux nous rappeler les dates de rendez-vous ou les coordonnées pour joindre le collectif, en fait, pour les auditeurs
Je contacterai le camarade. Pour l'instant, on commence simplement à le mettre en place. Hein. Donc, on n'a pas loin de là encore tout structuré. Hein, mais j'en ferai part à Jérôme et de toute façon à notre union départementale Solidaire 93 aussi. Hein. Mais je ne manquerai pas de vous informer.
Ok, alors on va passer une petite musique de pause et puis on se retrouve dans 5 minutes.
Qu'est-ce que j'ai pu faire dans la vie, mon Dieu ? Il y a des jeunes gens qui se font de la bile, des vieux qui se font du mauvais sang, parce qu'ils n'ont que 3 automobiles ou qu'ils n'en pochent que 100%. Ben moi, si, mais que me fit-on faire un cône ? Oh ! Des bêtises, rien ne me repute ni me dégoûte pour gagner ma croûte.
Moi j'avais une question à poser par rapport à ce que tu as dit juste avant. Vous en tant que Sud, vous étiez au courant en amont avant la fermeture, qu'elle allait se faire cette fermeture. Est-ce que vous avez mené des actions syndicales et qu'elle vous a répondu, que vous a répondu les patrons par rapport à vos interventions ? Est-ce que vous avez fait des manifs, des choses un petit peu battantes, un petit peu pour empêcher cette fermeture ? Et que vous ont répondu les patrons ? Et voilà, donc je voulais savoir un petit peu quelles avaient été les actions que vous aviez menées avant que la fermeture se fasse. Et voilà, donc et si vous étiez nombreux, s'il n'y avait que Sud ou s'il y avait également la CGT, etc., etc., est-ce qu'il y a eu des actions à mener avant la fermeture ?
Alors, malheureusement, non. À ce jour, il y a eu des actions concernant la non-fermeture, pour empêcher la fermeture de la clinique de soins dentaires. Hein, il y a eu des rassemblements devant la CFAM 93. Il y a eu une pétition de mise en place, hein, c'est-à-dire un collectif, quoi, en fait. Hein. Mais concernant la fermeture des centres d'accueil assurance maladie, pour l'instant, aucun rassemblement et aucune action n'a commencé. Mais il faut dire que ça vient d'être annoncé il y a très récemment. Hein. Enfin,
d'accord. Donc on vous a caché, donc ça veut dire qu'on vous a caché la fermeture de ces centres.
Ah bon, en général, ils attendent le dernier. Ouais, ils attendent le dernier moment pour avertir le CSE, évidemment.
Hein. D'accord. OK. Merci.
Hein, en plus, c'est en pleine crise du Covid, donc du coup, la mobilisation, c'est peut-être un peu plus difficile que...
Oui, bien sûr.
Il y a eu un appel à la grève, par exemple, concernant la riposte pour empêcher la fermeture du centre de soins dentaires. 90% des salariés étaient en télétravail. Hein.
Justement,
d'ailleurs,
on va parler...
Ils le savent. Hein.
Ouais, on va parler de dissimulation, ouais, tout de suite là, puisque outre ces nouvelles du front que tu nous ramènes de Seine-Saint-Denis, tu as d'autres nouvelles un peu meilleures en fait sur, je crois, une enquête en cours, n'est-ce pas ?
Oui.
Tu veux nous en parler, Sylvain ?
Oui, alors, je vais vous parler. Alors je m'excuse, je vais être obligé d'évoquer quand même certains chiffres. Hein. Je ne veux pas que ça soit rébarbatif, mais enfin, je vais être obligé de les utiliser, puisque il existe du travail dissimulé dans l'assurance maladie et dans les URSSAF, dans les CAF, les CARSAT, etc., etc. Mais pour l'instant, je vais vous expliquer où on en est sur le 93. Donc, notre organisation syndicale, Sud Protection Sociale 93, avec notre union départementale solidaire 93, a décidé de déposer une plainte pénale contre la CEPAM en mai 2017 concernant le travail dissimulé. Je dis bien une plainte pénale. Suite à ça, le parquet a saisi l'inspection du travail de Bobigny pour enquête. Je ne vais pas tout dévoiler, enfin, ce n'est pas dévoilé, mais tout expliquer la procédure parce que ça serait trop long. Donc, la direction a été contrainte en 2018 de restituer aux agents 21 578 heures et en 2019, 21 987 heures aux agents. Alors attention, la restitution, ce ne sont pas des heures majorées. J'y reviendrai plus tard. C'est-à-dire qu'ils ont restitué, contrairement à la réglementation en vigueur, non majorées. C'est-à-dire que il y a des agents qui ont récupéré. Si la récupération d'une heure aurait dû être 1h15, et le paiement aurait dû être majoré à 25 ou 50%, ce qui n'a pas été fait, et ça, c'est considéré comme du travail dissimulé par la législation. Toujours à la CEPAM 93. Alors, on a fait trois compléments de plainte hein, concernant les heures dites méridiennes, c'est-à-dire le midi. Entre 2014 et 2018, après complément de plainte et insistance de l'inspection du travail, la direction a été obligée de nous divulguer qu'il existait bien, donc parce qu'on a 45 minutes pour déjeuner de midi, hein, entre 2014 et 2018, qu'il existait bien 12 321 heures supplémentaires estimées. Donc quand elle dit estimée, vous pouvez doubler. Alors ça, pour ces heures, concernant la pause dite méridienne, elles ne sont ni payées, ni restituées aux agents. Alors là, on en fait un travail dissimulé. Tout ça est dû, bien entendu, à la charge de travail. Hein, parce que s'il y avait la charge de travail était en adéquation avec les effectifs, on n'aurait pas ce travail dissimulé. Et le manque à gagner, c'est-à-dire la dotation au comité d'entreprise, qui n'est pas payée, les cotisations retraite qui ne sont pas payées, les cotisations assurance maladie, alors là c'est le summum, hein. C'est-à-dire que l'assurance maladie ne paye même pas les cotisations qu'elle devrait payer à sa propre institution. Ouais. Concernant la CEPAM 77, Sud a saisi l'inspection du travail pour un contrôle en 2018 partiel sur... Alors, l'inspection du travail a fait un contrôle partiel concernant 143 agents. Il y aurait déjà sur 6 mois, pour 1000 agents, 7343 heures. Ça, c'est le calcul de Sud par rapport à l'échantillonnage qu'a fait l'inspection du travail sur 143 agents. Donc, ça concerne également la CEPAM 77. Alors là, je vais venir au paradoxe, le travail dissimulé à l'URSSAF Île-de-France. Alors, il faut savoir qu'une URSSAF a déjà été condamnée en 2017, c'était à la URSSAF de Bretagne, par une salariée pour travail dissimulé. D'accord hein. Et ça, c'était en 2017. Alors, je reviens à l'URSSAF Île-de-France, qui est la plus grande URSSAF de France. Hein. D'accord. Donc, il y a également le syndicat Sud Protection Sociale a déposé plainte au pénal. Hein. Entre 2014 et 2019, et encore on a 10 mois sur 12 concernant l'exercice 2019, il y a 121 713 heures supplémentaires qui n'ont pas été réglées aux agents, dissimulées. Alors, qu'ont été restituées, certes, mais toujours pareil, sans la majoration légale et sans le paiement des cotisations sociales, etc., etc. On a fait un rapide calcul, et je ne vais pas rentrer, c'est pour ça que j'ai dit au préalable que je n'allais pas rentrer trop dans les chiffres, mais je suis obligé. Si la direction de l'URSSAF Île-de-France avait majoré les heures à minima, hein, on en serait à 478 000 euros qu'elle doit toujours aux agents. Alors, il y a un autre versant qui est scandaleux et qu'on n'appelle pas du travail dissimulé, c'est du travail clandestin. C'est-à-dire, bah, d'ailleurs, FO a sorti un communiqué là-dessus avant-hier, même s'ils n'ont pas déposé plainte, en disant que les agents badgeaient à 17h et travaillaient par exemple jusqu'à 18h30, et y compris le week-end, pour absorber la charge de travail, alors je ne vous fais pas de dessin, avec la pression qu'il peut y avoir de la direction, tu as intérêt à terminer le boulot, notamment les CDD, les emplois précaires, mais pas seulement, sinon tu n'auras pas de renouvellement de ton contrat de CDD, Et pour les plus anciens, tu n'auras pas de salaire au mérite, parce qu'on a des tas de compétences qu'ils attribuent tous les ans. Donc, on sait très bien que le travail clandestin continue, que ce soit dans les CIPAM, dans les URSSAF, etc., etc. Mais ça, on a beaucoup de mal à le trouver. Mais on
Sylvain, est-ce que tu peux nous rappeler le statut en fait, des employés de l'URSSAF
agents?
Tout à fait, oui, c'est des fonctionnaires.
Non, nous sommes régis par une convention collective de droit privé. D'accord, hein. Mais on travaille dans un service public, mais on est régi par une convention collective de droit privé. C'est pour ça que ça s'appelle réellement du travail dissimulé et non pas des écrêtements comme on peut l'appeler dans les services publics qui sont régis par un statut, etc.
Nous, est-ce que tu veux dire que
des travailleurs, des salariés régis par une convention collective de droit privé?
Est-ce que tu voudrais dire que finalement, l'URSSAF fonctionne un peu, le management de l'URSSAF fonctionne un peu comme une entreprise, c'est-à-dire que les salariés se sentent obligés d'en faire beaucoup plus sous peine de chantage à l'emploi, en fait, y compris, par exemple, de badger, comme tu le dis, à 17h, de marquer une fin, mais pour ne pas dépasser, visiblement, les heures. Et de se sentir obligé, en quelque sorte, d'en faire plus sans. C'est ça, hein, le fond de le fond.
Bien évidemment, bien évidemment. Moi, j'ai rencontré le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie, qui s'appelle Monsieur Roisel, qui est directeur de cabinet à Jean Castex, notre Premier ministre, au mois de novembre, avant qu'il soit nommé au gouvernement. Bien entendu, Castex, on lui a évoqué le travail dissimulé, vous doutez bien. Et la charge de travail, par exemple, concernant les heures que je viens d'évoquer à la CEPAM 93, ça ferait 18 équivalents temps plein, c'est-à-dire embauche sans CDI, pour compenser les heures de travail dissimulé là. Donc il a regardé ses godasses, il ne m'a pas répondu. Mais évidemment, en soulevant le problème du travail dissimulé, nous soulevons les problèmes d'effectifs et la surcharge de travail, forcément. C'est lié. Hein. Donc, là, pour répondre concrètement à ta question, la charge de travail, bien entendu, est supérieure aux effectifs existants dans les caisses de sécurité sociale et les cadres, etc., sous injonction de leur direction, mettent la pression sur les salariés en disant t'as intérêt à finir ton boulot, sinon ça va très mal se passer pour toi. Hein ? C'est exactement...
Ouais, moi, je trouve que c'est génial ce paradoxe-là, qui est que on a des gens avec lesquels on bosse. Moi, bon, tu sais que je suis inspecteur du travail, il y a des gens avec lesquels on bosse, c'est l'URSSAF, on bosse avec l'URSSAF. Et, et ce qui est génial, c'est que vous êtes vraiment notre super appui quand on chope un patron de PME qui fait exactement ce que tu viens de décrire et qu'on lui dit « Mais vous savez, nous, on vous tague pour travail dissimulé et l'URSSAF va passer derrière, ils vont vous plumer, quoi. Ils vont vous dépouiller parce que vous avez fait du travail dissimulé. » Et c'est marrant parce que l'URSSAF elle-même se comporte comme un patron de PME qui cherche à gruger sur les heures et à dissimuler des salariés, des trucs comme ça. C'est vraiment assez exceptionnel. Je bois du petit lait, hein, Sylvain. Vas-y, continue, parce que c'est vraiment exceptionnel.
Oui, c'est là le paradoxe de l'affaire, là, hein, entre guillemets. Hein. Bon, alors, ça a été médiatisé déjà en 2018 dans le journal L'Humanité. Hein, on avait eu deux articles là-dessus. Bon, ils ont fait du ménage un peu défusible, hein, c'est-à-dire des DRH, etc., qu'on met au placard. Mais il n'y a pas eu de travail politique. C'est au politique de faire le nécessaire. Hein. De fait, pour éradiquer le travail dissimulé dans les URSSAF, notamment, enfin la sécurité sociale. Hein. Nous, on avait saisi en 2017 avec Solidaire National Buzyn, hein, l'ancienne ministre de la Santé, pour ceux qui ne connaissent pas, ou qui se rappelle plus parce qu'elle n'a pas laissé beaucoup de traces dans son histoire. Et Pénico, hein, l'ancienne ministre du Travail, on nous a répondu que c'était un problème local. Y compris la France Insoumise, on avait saisi Éric Coquerel de la France Insoumise pour poser une question écrite, toujours en 2017 ou 2018, à l'Assemblée nationale pour interpeller la ministre Buzyn sur ce sujet. Elle nous a répondu que c'est un problème local. Alors, c'est pas un problème local, c'est un problème national. Mais rien n'a été fait.
Est-ce que ça veut dire que ça n'a été constaté que dans certaines, enfin en l'occurrence dans les URSSAF du 93, ou pour vous répondre ça que c'est un problème local? Parce que finalement c'est une façon de se défausser. C'est une façon de se défausser finalement. Je veux dire, c'est-à-dire. Mais est-ce que c'est réellement un problème local? C'est-à-dire, est-ce que le fait n'a été constaté que là?
Non, c'est pas un problème local. Il y a la CEPAM, on a des éléments là-dessus, hein, de toute façon. La CEPAM, en 2015 de Bayonne, c'est la CGT d'ailleurs, c'est même Kinev, hein, qui avait déposé plainte pour travail dissimulé à la CEPAM de Bayonne déjà en 2015. À ma connaissance, il y a eu des contrôles, y compris, non pas syndicaux, hein, mais de l'inspection du travail, par exemple à la cave du Doubs, où c'est le même problème. C'est-à-dire que dès qu'on va mettre le nez dans le travail dissimulé dans les organismes de sécu, que ce soit l'URSSAF, la CEPAM, les CARSAT, etc., les CAF, on en trouve. À la CAF 93, l'inspection du travail a fait une enquête également en 2017 et a trouvé du travail dissimulé. A découvert malheureusement du travail dissimulé. Donc quand on fouille, et là, ça commence à se répandre quand même. Les salariés, ils aimeraient bien ne plus travailler gratuitement. Hein, vous les comprenez. Donc, les langues se délient et les actions commencent à fleurir. Mais le problème, c'est que bon, bah, c'est pas le cas de toutes les organisations syndicales, il faut le dire.
Alors, il faut expliquer que visiblement, c'est un problème qui remonte bien avant la crise du Covid, en fait. Hein. Ce n'est pas juste lié à une surcharge d'activité liée à la crise du Covid.
Les heures que j'ai évoquées, c'est 2014, 2018, et pour l'URSSAF, jusqu'à 2019.
Selon vous, si votre statut était celui du fonctionnariat, en fait, de la fonction publique, est-ce que vous supporteriez les mêmes pressions? Est-ce que finalement, c'est une revendication des salariés de l'URSSAF, en fait, d'être. De dépendre en fait de l'État, plutôt une étatisation de ces types d'organismes qui sont confiés au privé en fait.
Non, mais alors, évidemment c'est la revendication des salariés, mais une organisation syndicale qui appelle les salariés à défendre le code du travail, est-ce qu'elle peut fermer les yeux quand il y a du travail dissimulé dans sa boîte?
Non, bien sûr que non. Mais justement, alors là, vous avez quand même porté plainte. Et quelle va être la réponse finalement de la direction en fait? Alors, ça a été de vous restituer, de vous payer, d'embaucher? Quelle réponse vous prévoyez?
Restituer, mais mal restituer. Et il y en a qui n'ont pas du tout payé et restitué. Eux, ils attendent, à mon avis, l'audience en correctionnelle. Hein.
Ok, eh ben on va passer une pause musicale et puis on reprend cette discussion dans 5 minutes.
Tout bon militaire, je rends souvent hommage à Bacchus. C'est quand même un peu long cette guerre du coronavirus. C'est quand même un peu long cette guerre du coronavirus.
Oui, on va tenter maintenant de vous parler du télétravail, car nous sommes tous depuis mars 2020, donc depuis le coronavirus, on est un peu tous obligés de travailler chez soi. Dans le cas du télétravail, on est plus en contact avec les autres salariés de sa propre entreprise, donc ses camarades de combat, on va dire ça comme ça. Et dans le télétravail, l'employeur normalement est obligé de donner, de prêter du matériel pour que les gens chez eux puissent faire leur travail correctement. Or, ce n'est apparemment pas le cas dans toutes les entreprises. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec leur propre matériel, qui font des photocopies pour leur propre travail avec leur propre imprimante. Donc, ça pose un certain nombre de soucis. Et le fait de généraliser le télétravail, ça implique également c'est une forme de travail qui n'est plus du tout celle qu'on connaissait avant et qui pose un certain nombre de problèmes, puisque au départ, le télétravail était conçu pour les gens qui étaient des salariés handicapés. Et là, c'est généralisé à tout le monde, donc ça me pose un petit souci, moi, personnellement. Et puis surtout, psychologiquement, c'est un petit peu difficile aussi de télétravailler tout le temps. Donc, je vais savoir un petit peu ce que vous en pensiez. Voilà.
Bah, j'aurais une remarque, c'est que finalement, le télétravail, c'était quand même quelque chose, c'était au départ conçu comme une liberté par rapport à l'employeur. C'est-à-dire que les entreprises étaient très, très en retard par rapport à ça. Parce qu'elle n'avait aucun contrôle sur le salarié. Donc, il a fallu quand même se battre pour essayer d'imposer cette espèce de liberté, du fait que cette espèce de confiance accordée au salarié qui pouvait montrer qu'il pouvait travailler autant en étant chez lui tout en ayant un gain de temps. Et alors, paradoxalement, la crise du coronavirus révèle qu'en réalité, le travail à domicile, tout d'un coup, on se souvient en fait qu'on le pratiquait déjà au 18e siècle, hein, et que finalement, ça pouvait être un asservissement, au sens où on est effectivement dans des conditions qui sont finalement beaucoup plus difficiles sur le long terme, on devient de fait des travailleurs isolés, et qu'en outre, on a un rendement qui, contrairement à ce qu'on raconte, peut être nettement plus élevé dans la mesure où on a des horaires de déplacement qui disparaissent, dans la mesure où il y a une intériorisation des espèces de contraintes, en fait, hein, qui fait que le salarié culpabilise et peut tout d'un coup se sentir obligé, parce qu'il est chez lui, parce qu'il se sent seul, parce qu'il se sent de devoir des comptes, de travailler beaucoup plus. Et donc là, c'est vrai que ça demande un peu, à la fois une réflexion, une réglementation, dans l'avenir, surtout que les moyens en fait techniques permettent un contrôle en réalité qui peut être très fort sur les salariés, c'est-à-dire à la connexion par exemple, hein, vérifier si vous êtes bien en réunion, vérifier si vous êtes bien devant sur votre ordinateur quand vous utilisez un ordinateur du travail par exemple, on peut vérifier si vous n'êtes pas sur Internet. Et donc je crois que dans l'avenir, en fait, la grande crainte, c'est que ce système, c'est que les employeurs, redécouvrant la souplesse en fait du travail à domicile, soient tentés de le généraliser. Sans mettre des barrières réglementaires indispensables, qui sont celles, par exemple, du droit à la déconnexion, par exemple, hein, tout simplement.
Oui, puis il y a également un autre souci, c'est un souci de... Vous entendez bien là ou pas? Oui. Il y a un autre souci, c'est le rapport à la santé, parce que quand on est, par exemple, cadre dans une entreprise et qu'on télétravaille et qu'on est censé être tout le temps sur son ordinateur toute la journée, ça va poser un certain nombre de problèmes de santé par rapport à tout ce qui est ophtalmologie, etc. Et ça, par rapport à ça, personne en a, très peu de gens en parlent. Ou alors, il y en a qui en parlent, mais c'est très, très minime, hein. Et donc, ça pose un certain nombre de problèmes de santé, hein, même les problèmes de posture par rapport à son ordinateur chez soi. Quand on est en plus avec des enfants, on n'a pas de pièce pour travailler spécialement, ça devient de plus en plus compliqué. Et le fait de généraliser le système après l'épidémie a posé effectivement un certain nombre de problèmes. Je ne sais pas, peut-être des problèmes juridiques, hein, ou de législation.
Oui, et sans évidemment parler des risques psychosociaux, hein, bien entendu, qui sont induits par cette situation. Sylvain, quel est ton témoignage par rapport au travail d'une institution parapublique, d'abord en termes d'organisation, est-ce que c'est fonctionnel?
Alors, concernant la CEPAM 93, hein, je connais bien le sujet, mais c'est valable dans d'autres... pour l'instant, c'était la direction qui fournissait le matériel. Ça a l'air de s'être estompé depuis le Covid, où travailler sur un tabouret sera bien suffisant. C'est-à-dire qu'on avait réussi à avoir un protocole d'accord qui n'a pas été renouvelé pour plusieurs raisons, où voilà, il était inscrit dans ce protocole d'accord local que le matériel, l'espace suffisant, les sécurités électriques et tout devait être respecté. Et ça, ça a l'air de partir à volo, hein, d'après mes informations. Ensuite, on avait réussi à obtenir un suivi psychologique pour le personnel qui le souhaitait, c'est-à-dire que c'est la direction qui prenait en charge les frais d'un psychologue pour combattre le mal-être des salariés à l'intérieur de l'entreprise. Ça, ils l'ont transformé en disant bah, maintenant, ça sera plus obligatoire quasiment, mais ça sera à la demande des salariés. Hein. Donc vous voyez que le suivi psychologique, c'est-à-dire d'instaurer un psychologue dans l'entreprise pour que si les salariés soient suivis, vole également en éclat. Après, pour revenir au problème général, c'est que vous avez une désocialisation des salariés dans l'entreprise, notamment de leur syndicat. Déjà, ils ont des pressions pour pas qu'ils viennent nous voir dans le local. Donc, imaginez isoler chez elle ou chez lui un salarié, faire la démarche de saisir les organisations syndicales, de les rencontrer au bistrot du coin, etc., etc. C'est-à-dire que vous avez une désocialisation avec leurs collègues, mais une désocialisation sociale caractérisée. Avec la défense des salariés, je ne sais pas trop comment on va faire. Quoi, hein. Ça va être compliqué. C'est déjà compliqué, mais ça va l'être de plus en plus, mais pour tout le monde. Hein. Ensuite, on sait très bien que le patronat sait que, en faisant travailler les salariés en télétravail, le gain de production moyen pour un patron est de 20%. L'absentéisme chute, j'ai pas les chiffres, mais chute d'une manière considérable aussi. Pas d'immeuble à payer, pas de location, etc. Dans certaines entreprises, on supprime les chèques déjeuner, alors qu'on les payait. Concernant les dépassements d'horaires, moi je vais vous citer des entreprises de des entreprises de prévoyance, et y compris dans les organismes de sécu, où les salariés font allègrement une heure de plus par jour. Et ça, ça s'appelle comment? Ça s'appelle une travail privé. On en revient toujours au même. C'est-à-dire que les dépassements d'horaires, ça n'existe pas. C'est des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires, elles doivent être payées. Si elles ne sont pas payées, c'est le travail disponible. Et ça, c'est pas difficile. Il faut qu'ils se penchent vraiment sur le problème.
Alors, effectivement,
il voilà, y a beaucoup de choses.
Alors effectivement, mais du point de vue justement alors de l'exercice de ces droits syndicaux, comment ça se passe dans ces situations? Parce qu'on je crois qu'on le voit bien hein, qu'il y a un isolement, du fait de l'isolement des salariés, il y a beaucoup plus de difficultés à se coordonner et avoir des réponses, même avec les outils modernes, hein, de technologie, on a beaucoup plus de mal hein, à se coaliser, on va dire, pour apporter des réponses adéquates. Tu peux témoigner, toi, de ton expérience, justement, de syndicaliste dans cette situation-là?
Non, je n'ai pas de témoignage concret, mais bon, on avait un immeuble de 1000 agents présents, ils doivent être 40. Il est évident qu'ils viennent de moins en moins contacter les syndicats, quoi. Pour la plupart. Bon, ceux qui sont permanents, ça va. Mais tout le monde n'est pas permanent, hein, y compris dans les boîtes privées. Hein. Il n'y a déjà pas de syndicat, mais quand il y a un syndicat, il est loin d'être permanent. Donc si il n'a aucun contact physique avec ses salariés pour boire un café avec eux, hein, j'imagine, hein, pour qu'on comprenne bien le problème, c'est sûr que les revendications des salariés, elles restent de côté. C'est pour ça qu'on se retrouve dans des risques psychosociaux de plus en plus importants et qui vont se développer concernant le télétravail.
Oui, donc on est bien d'accord qu'en fait l'isolement, la désocialisation plutôt, n'encourage pas du tout l'activité syndicale et surtout n'encourage pas le partage des expériences et du vécu. Et puis il y a aussi un autre aspect, c'est la dématérialisation, on va dire, du chef, hein, c'est-à-dire des chefs, des consignes, tout ça devient un peu chaud finalement, soit les consignes par ordinateur, on a des contacts beaucoup plus limités, même avec la hiérarchie, qui devient un peu un deus ex machina en quelque sorte.
Il y a un problème aussi qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire que quand il y avait une erreur dans le service, bon, il y avait une faute, la direction retient toujours les fautes professionnelles dans ce genre de truc. Autant le salarié qui n'était pas en télétravail pouvait diluer la faute en disant « Bah oui, mais c'est passé par tel circuit au lieu de passer par tel circuit. Il faudrait voir la responsabilité du cheminement, etc. » Là, c'est frontal. C'est-à-dire que le salarié en télétravail, faute, sanction. Il n'y a pas de tampon. Là, c'est incontournable. Chez nous, déjà, quand vous badgez 2 minutes en retard, on vous met en conseil de discipline alors qu'ils doivent 60 000 heures au personnel. Oui. Mais bon, ils évoquent toujours la faute grave. Donc, le salarié est exposé à des sanctions, même si c'est indépendant de sa volonté, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas responsable, excessivement important. Il y a ça aussi. Je crois que j'ai fait le tour, hein, entre
effectivement là on voit, je voudrais un peu résumer cette émission. On a vu, merci en tout cas Sylvain pour toutes ces interventions, parce que en fait ces trois points sont très importants que tu soulèves, et on te réinvitera sûrement à l'émission, parce que effectivement avoir quelqu'un qui peut nous parler de à la fois de la sécu, du travail dissimulé, enfin etc, c'est très intéressant pour nous. C'est vraiment un thème vraiment nos thèmes de prédilection. Et je voulais dire que ça prouve une chose, c'est qu'ils poussent leur agenda, quoi. Les directions, l'État, le gouvernement, tout ce monde-là poussent leur agenda de liquidation. Et on te remercie de nous faire part aussi de la bataille que tu mènes, à la fois pour sauvegarder les centres de sécu et aussi pour dénoncer le travail illégal, sous toutes ses formes. Moi, je suis entièrement d'accord, hein, tu sais bien. Je crois qu'il faut, combattre, il faut riposter, comme tu le montres bien. Ça donne aussi plus de clarté dans l'information. Et souvent des bonnes nouvelles aussi, des bonnes nouvelles qu'on arrive à leur mettre quelque chose un peu dans les pattes, quoi. Hein, je pense que c'est là-dessus qu'il faut conclure, hein, si on veut rester un peu sain d'esprit, non?
Oui, je pense aussi, oui, effectivement. Bon. Oui, je tenais à vous remercier aussi donc pour cette émission qui était très intéressante, hein. J'y ai appris des choses, je suis encore à nouveau, comme d'habitude, révolté par ce que j'entends, hein, parce que ça me révolte un petit peu aussi. Je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à bientôt alors. Ça marche.
Oui. Moi, je voudrais conclure parce que ça fait toujours penser au capitalisme du désastre. C'est-à-dire qu'en fait, chaque catastrophe peut être utilisée, en fin de compte, par entre guillemets, l'adversaire. Et là, typiquement, c'est le coronavirus. Alors, on est dans une crise qui peut durer. Et on voit bien que non seulement on peut s'adapter, mais qu'en plus, il y a peut-être des profits à tirer d'une situation qui est extrêmement pénible pour les salariés, c'est-à-dire qu'effectivement, avec le couvre-feu, finalement, l'ancienne boulot métro-dodo là prend tout son sens, puisqu'on fait rien d'autre que ça, et en plus, on peut travailler plus, et bientôt pour moins cher, et avec un contrôle beaucoup plus fort. Donc il faut vraiment, c'est vraiment le moment de faire attention justement à ce qui se prépare dans un avenir prochain.
Oui.
Ok. Bon, voilà. Tu veux conclure, Sylvain?
Oui, si vous voulez bien. Oui.
Mais juste donc, très court parce qu'on est dans le temps, on est dans le temps additionnel là.
Non, mais c'est bon.
Oui. Oui, effectivement, par la lutte, on peut gagner des choses. Hein. J'en ai fait pas la démonstration à 100%, mais je vous ai fait part de ce que le combat peut rapporter, hein, parce que c'est vrai qu'il y a une démoralisation un peu de la classe ouvrière, hein, en disant on va sur échec. Non, quand on combat sur certains points, on peut gagner. Hein. Donc voilà, je vous tiendrai au courant concernant le collectif pour la défense des points d'accueil de la sécurité sociale et notamment une procédure juridique concernant le travail dissimulé. Je vous remercie de m'avoir invité. À bientôt, camarades.
À bientôt, merci à toi.
Merci.